Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Une nouvelle émission de philosophie avec Françoise Gernot, Osons la philosophie. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et le...
À tous.
Pardon. Et nos deux émissions, vous les avez intitulées « L'approche du visage ». Alors la question habituelle, pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi de parler du visage? Et avec quel penseur? Puisque vous faites à chaque fois des lectures de textes.
Oui. J'ai pensé qu'il serait en effet intéressant de réfléchir sur le visage tel qu'il a été approché. Nous allons voir qu'il s'agit essentiellement de l'approche, de la rencontre du visage par deux penseurs, deux penseurs presque contemporains, le sociologue-philosophe Georg Simmel, si vous voulez, qui a proposé un court article de 5 pages en 1901, que je trouve tout à fait intéressant, vous allez voir pourquoi. Et puis, je voudrais, dans un deuxième temps, réfléchir aussi aux thèses de Lévinas, selon lesquelles la rencontre du visage nous oblige à une conduite éthique. Donc, vous voyez, nous allons passer de l'esthétique, c'est-à-dire d'une réflexion sur l'art du visage comme art du portrait, Simmel, à la question éthique, c'est-à-dire à une morale de la responsabilité qui est appelée en quelque sorte par le visage d'autrui.
Oui, parce que le livre de Simmel s'appelle, enfin l'article s'appelle « Signification esthétique du visage »,
oui,
alors que Lévinas...
Le texte de Lévinas, le grand texte de Lévinas, mais il a repris ses analyses dans tout le reste de son œuvre, cet ouvrage est de
1974. Totalité infinie.
Alors, vous voyez bien comment le visage porte à quelque chose comme une méditation aussi sur l'infini, sur le tout autre.
Bon. Donc, pour une fois, vous allez faire une émission avec le premier penseur et une deuxième émission avec Lévinas.
Oui, mais sans jamais oublier l'autre.
Oui.
De la conversation.
Bien sûr.
Bon, si vous voulez, ce que je propose, c'est une conversation entre esthétique et éthique à propos du visage. La rencontre du visage, la rencontre d'un visage, qu'est-ce que cela sollicite pour nous ou pour moi? Pour moi qui suis ou bien un artiste ou bien une conscience ouverte au monde. Suivant que l'on accepte la logique de Simmel, ou celle d'Emmanuel Lévinas. Rencontre du visage, rencontre d'un visage. Alors pourquoi insistais-je sur le « un » Parce que tout visage qui se manifeste à nous, qui se présente à nous, d'abord nous l'identifions immédiatement en lui attribuant une personne précise. Visage donc nous apparaît toujours avec son absolue singularité. Ce qui caractérise le visage, c'est qu'il s'agit d'un visage qui marque l'individualité absolue du tout autre. Puisque, au moins pour Lévinas, l'autre, c'est bien le tout autre. Et le tout autre qui, exceptionnellement, se présente, apparaît grâce à son visage. Et moi-même, je suis... le sujet que je suis, moi-même, je me porte vers ce visage en fonction de ce mouvement d'intentionnalité qui fait que la conscience se porte vers autrui. Alors, d'une manière générale, je n'entre pas encore tout de suite dans la lecture de Simmel, d'une manière générale, la perception du visage concerne ses traits et ses expressions. Alors, ses traits, il peut y avoir tout de suite une évaluation esthétique de la personne, de l'individu singulier qui est en face de moi. Et je ne peux pas ne pas m'empêcher de mettre en valeur le critère de la beauté ou de la laideur. Mais la beauté d'un visage est très problématique. Et la laideur d'un visage est très problématique. Alors, j'ouvre une parenthèse, une toute petite parenthèse. Zimmel dit dans un autre texte que je n'ai pas retrouvé, mais que je connais, Zimmel dit que, par exemple, quand je vois surgir un visage et qu'immédiatement, je le définis comme laid, petit à petit, avec justement la chance ou les chances que donnent les rencontres, les conversations, je le vois en toute beauté. Et ça, c'est une expérience que nous avons tous fait,
oui.
Je crois tous et toutes fait, qu'un visage disgracieux, de ce visage disgracieux, émane finalement une certaine grâce. Donc le contact avec le visage d'autrui est toujours d'une grande complexité, et surtout lorsqu'il s'agit du jugement esthétique porté sur, encore une fois, la beauté ou la laideur du visage. Alors, c'est le premier point. Donc, ce qui nous apparaît dans le visage, ce sont des traits qui ont une certaine fixité, mais ces traits sont immédiatement mis en mouvement par les expressions. Donc, le visage est à la fois ce qui présente des traits, je dirais, pertinents et constants, mais c'est aussi ce qui, dans ce mouvement d'expressivité qui est celui de tout visage, à une exception près, se présente évidemment une grande plasticité.
Mais en vous écoutant, on parle du visage, je dirais en vrai, une personne qui est devant nous, puisque nous avons choisi comme visuel un portrait du Fayoum.
Oui.
Mais là, on parle vraiment du visage d'un être vivant.
Oui, oui. Je parle du visage. Je dirais d'une manière en général, je parle du visage en général, mais vous voyez bien que j'incline déjà ma réflexion, vous allez le voir, sur les thèses ou les analyses de Georges Zimmel. Donc un visage qui est à la fois, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une espèce de contradiction interne, mais qui s'harmonise néanmoins entre une certaine fixité des traits et la souplesse, la plasticité des expressions de joie, de douleur. Enfin, nous entendons très bien.
Ouais.
Je dis nous entendons.
Ouais.
Nous entendons très bien comme si justement le visage était d'avance porteur d'une parole possible. Ce qui est en jeu des sentiments qui s'exposent ainsi dans les expressions. Je voudrais juste, en incise, référence aussi à Georges Zimmel, exposer qu'il y a aussi dans notre mythologie et dans notre mythologie plastique, par exemple dans la pensée grecque, dans la sculpture grecque ou romaine, nous avons aussi l'image d'un visage inerte, aux traits odieux. Et c'est l'image, bien sûr,
de la Méduse ou de la Gorgone.
Oui. Donc, il peut y avoir un visage qui serait figure de la mort donnée aux autres. C'est-à-dire, à la rencontre de ce visage, nous sommes pétrifiés jusqu'à l'extrême de la pétrification qui est la mort. Alors, il ne faut pas oublier que dans toute relation visage, il y a cette hantise d'un visage figé, qui ne figurerait aucune vitalité et qui serait en tant que tel mortifère. Il reste quelque chose de cela dans ce qu'on appelle l'ethnologie, l'anthropologie du mauvais œil. Le visage peut être plus que repoussant et mortifère, il peut être porteur d'un regard qui tue.
Un regard qui tue. Mais je pensais, ça n'a peut-être pas de lien, mais je pensais aux gens qui n'ont pas la parole et qui expriment tout par le visage, justement les expressions. Je pense aux mimes. Qui disent tout par le visage.
Oui, alors il faut parler du mime. Alors, il y a le visage et il y a le corps.
Non, mais je parlais que du visage, en fait. Le mime aussi utilise son visage.
Oui. Il y a le visage, autrement dit, il y a le corps. C'est vrai que le visage joue beaucoup de plus pour les prestations dont vous parlez que le corps. Et néanmoins, on ne peut pas non plus détacher le visage d'un corps.
Ouais.
Même si le visage, nous dit Zimmel, se coupe d'une certaine manière du reste du corps par
le cou.
Il y a quelque chose comme un pédoncule aussi qui isole le visage dans la vision que nous en avons. Parce que effectivement, Zimmel se livre aussi à cette description, comme l'avait fait avant lui Hegel, du visage comme une des postures et une des parties très singulières, lui aussi, du corps. Il faudrait aussi parler du masque et du maquillage.
Bien sûr.
Bien sûr.
On peut tout cacher.
Oui, oui.
tout transformer.
Oui. La question du masque serait une immense question que je ne peux pas soulever ici, sinon pour dire que tout masque est choisi. Donc, a la singularité du visage, entre parenthèses normale, vivant, se superpose un autre visage, qui est un visage tout de même qui a été déterminé par le sujet lui-même. Alors, ou bien il est déterminé, je ne sais pas, je pense aux fêtes de Venise, ou bien par... oui, par la fête, par le sens de la fête.
Ou un sentiment.
Ou bien il est déterminé par des coutumes anthropologiques. Par exemple, tel village a telle danse, et donc les danseurs de ce village arborent tel ou tel masque. Question aussi des masques qui renvoient aux animaux. Alors, le visage, grande question, qui n'est pas posée ici dans les deux textes, mais grande question, est-ce que le visage est bien le propre de l'homme? Alors, le visage, pour nous, est toujours allié, nous allons le voir, à la parole. Mais est-ce que le visage est vraiment le propre de l'homme? Rien n'est moins certain. Parce que les animaux nous regardent. Souvenez-vous, j'avais fait une émission sur le regard que la chatte portait sur Jacques Derrida sortant nu de son bain. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus, négliger qu'il peut y avoir moins une rupture qu'un passage entre le visage humain et la face des animaux, et de certains animaux en particulier. Ceux qui nous sont proches, aussi bien dans l'espace domestique que ceux qui nous sont proches dans la lignée, la lignée évolutive.
On pense bien sûr aux singes, on pense...
Bien sûr. Et nous décodons quand même. Le regard d'un chat, le regard d'un singe, même dans un zoo, nous le décodons. Bien. Alors, je vais d'abord commencer par, effectivement, entrer, avec toutes ces précautions oratoires, dans la pensée ou la lecture du passage que Simmel consacre donc à la question du visage.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous poursuivons avec Françoise Gernot la première émission « L'approche du visage ». Et après avoir... introduit en fait toute cette réflexion, puisque dans la deuxième émission, vous parlerez d'Emmanuel Lévinas, vous allez aborder la lecture de Georges Simmel. Et nous avons écouté, vous aviez choisi un quatuor pour cordes, de Shostakovitch, que vous aimez.
C'était qu'on vient de m'offrir.
Alors, il a toutes les qualités, ce quatuor pour cordes.
Si je procède en deux temps, c'est pour marquer, faisant signe d'avance, puisque ce sera la seconde émission, vers, bien sûr, Lévinas et ce grand livre de totalité et infinie, si je commence ainsi par une réflexion sur le visage qui conditionne en quelque sorte un certain style pictural qui est celui du portrait. Si je commence par là, c'est aussi pour établir les premiers principes d'une réflexion qui portera donc sur l'accueil du visage qui nous oblige à la justice, à la considération. J'évite tout de même le mot de charité. Quel est donc, premier point, quelle est donc la question préliminaire posée par Simmel? Elle est la suivante. Simmel s'interroge pour savoir dans quelle mesure les caractéristiques du visage, dont nous verrons, et j'ai déjà énoncé cela, qu'elles relèvent d'une totalité, mais d'une totalité à partir de divergences, de contradictions, nous verrons comment justement cette présentation du visage autorise un style très particulier d'art qui est celui de la peinture. La peinture est une peinture de visage. Le visage est ce qui sollicite l'acte pictural, et justement le visage dans sa singularité, par différence avec un visage qui serait sculpté. Je vais y venir. Hein. Donc, quelles sont les caractéristiques du visage, puisque ce visage prête, incite à sa figuration sous la forme du portrait. Je vais vous lire le début de ce court texte. Pour désigner le rôle incomparable imparti au visage humain dans le domaine des arts plastiques, on dit, d'un point de vue certes bien général et pour ainsi dire lointain, que l'âme s'exprime avec le plus de clarté dans la forme de celui-ci. Nous voulons savoir par quelle détermination perceptible pour les sens, il s'agit d'esthétique, le visage parvient à ce résultat et si au-delà, il ne possède pas directement des qualités esthétiques qui seraient le support de sa signification pour l'œuvre d'art. Mmh. Donc vous voyez quelle est l'orientation déjà de cette approche du visage par une réflexion de forte teneur philosophique, celle de Simmel. Il s'agira des arts plastiques, nous verrons, du portrait bien sûr, et il s'agira aussi de l'idée que, précisément, Simmel cultive très peu. Cette idée qui revient tout le temps, selon laquelle le visage, là je vais faire une parenthèse personnelle, idée selon laquelle le visage serait le miroir de l'âme. Mmh. Nous connaissons ce cliché. Oui. Le visage est le miroir de l'âme, et cela supposerait aussi beaucoup de doigté, je dirais, pour définir cette... pour s'assurer de cette position, qui n'est pas tout à fait la mienne. Alors, que le visage soit le miroir de l'âme, pour Simmel, ça a le sens suivant, c'est que le visage a à voir, évidemment, avec la spiritualité. Mmh. Mais, bon...
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure de beauté et de laideur. On peut avoir une belle âme en étant laid, et l'inverse aussi.
Oui, mais nous avons un propos très très amusant qui se trouve chez Platon. Dans le banquet de Platon, Alcibiade, qui était fou amoureux de Socrate, et en dépit de sa laideur. Alors, il se trouve que le premier philosophe, reconnu comme tel, présente un visage d'une laideur repoussante, presque repoussante. Et Alcibiade dit ceci... Socrate ressemble à un Silène, c'est-à-dire qu'il est, difforme, il est laid, son visage impossible. Et cependant, comme pour les figurines des Silènes, qui se trouvent d'ailleurs accrochées dans les arbres dans la campagne, comme ces petites statuettes en quelque sorte, si on l'ouvre, on aperçoit Agalmata, des trésors, quelque chose évidemment de divin. Ouais. Donc il faut se méfier aussi, et la philosophie a été très consciente de ça, le visage dans la splendeur peut être sot, et le visage dans sa laideur peut justement demander à ce qu'on en ouvre l'intériorité. Ouais. Donc il y a bien un jeu entre le visage, son extériorité, et cette question de l'intériorité du visage. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que le visage soit tel quel, un miroir de l'âme. Simmel, qu'est-ce qui caractérise donc le visage par rapport au corps en général? Ceci. Plus les parties, d'abord une considération générale, plus les parties d'un ensemble se réfèrent étroitement les unes aux autres, une vivante interaction les faisant passer de l'existence séparée à la dépendance réciproque, plus le tout paraît alors spiritualisé. Bon, s'il y a donc une spiritualisation possible du visage, c'est dans, je ne dirais pas l'harmonisation, mais l'unité, malgré tout visible, entre la différenciation des traits du visage et de leur expression et l'unité, somme toute, que le visage nous présente lorsque nous l'abordons.
Oui.
Il y a toujours, si vous voulez, chez Simmel, ce balancement entre un terme, son contraire, Alors, je ne dirais pas une synthèse, mais...
Un terme et son contraire, oui.
Oui, un terme et son contraire, et une unité suprême qui serait elle, qui qualifierait elle la spiritualité.
Parce que quand on voit, quand on regarde un visage et qu'il ne sait pas qu'on est regard, qu'il est regardé, le visage peut être différent que lorsqu'on le regarde.
Oui, oui. Je reprends une autre citation dans le même sens. Une unité ne prend jamais de sens et d'importance que dans la mesure où elle a en face d'elle une multiplicité, dont elle constitue précisément la cohérence. Comme si l'unité, non pas complétait, mais subordonnait la multiplicité. Je continue. Or, à part le visage humain, il n'est au monde aucune figure permettant à une aussi grande multiplicité de formes et de plans de se couler dans une unité de sens aussi absolue. L'idéal de toute coopération humaine, et c'est le sociologue qui parle, l'idéal de toute coopération humaine, à savoir que l'extrême individualisation de ces éléments s'intègre dans une extrême unité, laquelle, bien que constituée de ces éléments, n'existe cependant qu'au-delà de chacun d'eux, et en particulier, et seulement lorsqu'ils coopèrent. Et cette formule est la formule fondamentale de la vie, celle qu'obtient évidemment le visage humain, sa réalisation la plus parfaite qui soit au monde visible. Ce sur quoi insiste ensuite notre penseur, c'est que bon, l'humain ne véhicule pas simplement la spiritualité comme le ferait un livre. Nous ressentons le visage comme le symbole non seulement de l'esprit, mais de l'esprit en tant que personnalité à nul autre pareil. Ce qui a été extraordinairement favorisé par le voilement du corps. Voilement du corps que, bizarrement, Zimmel attribue au christianisme. Sans commentaire. Il enchaîne sur la beauté fluide du visage. Le mot de beauté apparaît. Hein ? Le visage est à la fois... cette beauté fluide et en même temps l'expression du caractère permanent de la personne, hein, le lieu géométrique de la personnalité intime, pour autant qu'elle soit perceptible au regard. Alors bien entendu, pas de visage sans regard du visage, sans échange de regard. Ouais. Nous y reviendrons plus tard. Hein.
Oui, parce que le regard, c'est tout de même un élément fondamental du visage.
Et de la relation au visage. L'accueil du visage se fait d'abord par l'œil, par le regard, et par le jeu des regards. Mmh. Parce que l'accueil du visage est toujours mutuel. Il y a toujours de la mutualité dans le visage.
Non, c'est pour
dans
ça
le
que
visage
vous...
vu par un autre.
C'est pour ça que je vous disais, quand on ne sait pas qu'on est regardé, on peut donner des expressions différentes.
Oui, bien sûr. Première remarque à propos de ces... unification un peu étrange, le visage d'abord semble constituer, il dit ceci, hein, outre les moyens esthétiques formels lui permettant de représenter l'individualité, le visage en possède d'autres qui correspondent aux principes opposés. Le visage étant constitué de deux moitiés semblables, il y entre un élément de calme, d'équilibre interne qui tempère l'émotion et l'exagération propre à une figuration purement individuel. Par exemple, lorsque le visage exprime un sentiment violent ou même un sentiment. Mais, là encore, il y a différenciation parce que cette symétrie du visage est en même temps dissymétrique. Il y a de la dissymétrie dans notre visage. Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité où nous avions un visage féminin avec
deux moitiés différentes
Et c'était étrangement inquiétant.
Perturbant, oui.
Voilà. Donc, il y a à la fois une symétrie du visage et en même temps, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, quelque chose d'individuel. Encore une fois, une fluidité qui renvoie à l'individu et à multiplicité de ses perceptions et de ses expressions.
Pourtant, on nous dit qu'on n'a jamais les deux arcades sourcilières au même niveau. Hein.
Bien sûr, oui. Première allusion technique à la peinture. Donc, je reviens sur ces structures symétriques et asymétriques du visage. Hein. Et quelles conséquences cela a-t-il, cette duplicité apparemment contradictoire, pour l'art de la peinture ? Eh bien, ceci. La sculpture, en modelant symétriquement les deux moitiés du visage et contrainte à un style plus général, typique, échappant à l'ultime différenciation individuelle. Mmh. Et la référence est évidente, elle passe par Hegel, que bien sûr Georges Simmel a lu. La référence est évidente à la sculpture grecque. La sculpture grecque présente une beauté qui est une beauté de symétrie. Or, nous, modernes, nous n'aimons pas la symétrie.
Ouais.
Il faut qu'il y ait une inclinaison vers la dissymétrie pour que quelque chose accroche notre œil esthétiquement. Mmh. Je continue. Tandis que la peinture révèle d'emblée sa nature plus individualiste, par la différence dans l'apparence immédiate des deux moitiés du visage, facilitée par les profils et les rapports de lumière et d'ombre. Le visage constitue, du point de vue esthétique, la plus remarquable synthèse entre les deux principes formels de la symétrie et de l'individualisation. Réalisant en tant que tout la seconde, elle le fait dans la forme de la première qui domine les relations entre les parties. Je conclue par les presque dernières phrases. Dans l'œuvre picturale en particulier, L'œil du visage, n'agit pas seulement dans sa relation à l'ensemble des traits du visage, induite par sa mobilité latente, mais aussi dans la signification que prend le regard des personnes représentées pour l'interprétation et l'agencement de l'espace à l'intérieur du tableau. Alors, j'aurais voulu évoquer, et ce sera notre vignette.
Dans la prochaine
vignette.
Émission.
Non, ce sera notre vignette.
Ah non, notre visuel.
Je voulais évoquer les merveilleuses représentation
du Fayoum.
Les portraits du Fayoum, parce que là, on parle bien de portraits. Le Fayoum, le delta du Nil, est une série tout à fait exceptionnelle de figurations de personnages morts, mais dans lesquels on voit très nettement leur singularité, comme si ces personnages nous regardaient, nous, à titre personnel. Vraiment. Il y a un échange d'individu à individu quand nous contemplons ces exceptionnelles peintures du Fayoum. Exceptionnelles. Il s'agit d'un très beau texte de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle L'apostrophe muette. Exceptionnelles, c'est ensemble. Tout d'abord parce que ces peintures sont les plus anciens portraits d'individus dont nous disposions. Et ce portrait doit s'entendre ici en son sens moderne, c'est-à-dire comme une représentation exacte ou cherchant à l'être d'une personne réelle, existant ou ayant existé, et qui est un être humain de rang ni divin ni royal. Et je continue. La représentation d'un visage singulier est en effet comme le calque de la singularité elle-même, singularité de chaque visage, singularité qu'il y ait ou qu'il y ait eu tous ces visages, et qu'à chaque fois, chacun soit ou ait été l'unique. Le dernier, le seul, à être ainsi, voyageant avec cette face dans la vie, expédiée comme telle dans la mort. Je reviens au titre du livre, l'apostrophe muette. Effectivement, le portrait, en général, et ces premiers, entre guillemets, portraits qui nous fascinent, justement, parce que leur regard nous touche à ce point, cette présentation n'est rien d'autre qu'une apostrophe muette. Donc nous verrons comment tout visage nous apostrophe. Et ici, la peinture de visage, celle du Fayoum exceptionnellement, nous invite à entendre cette apostrophe muette.
Oui. Bien, nous vous retrouverons pour la deuxième émission plus consacrée à Emmanuel Lévinas dans Totalité et Infini, le côté éthique du visage. Merci, voilà. Françoise.